Chapitre 11. Conséquences et réflexions. Et si je voulais contester ces documents? Demanda Althea d'une voix lente. Elle s'efforçait de garder un ton calme et impartial, mais au fond d'elle, elle tremblait de colère et de ressentiment. À contre-cœur, Curtil se gratta les rares cheveux gris qui lui restaient.
Le cas est prévu. Celui ou celle qui conteste ce dernier testament en est automatiquement exclu.
Il secoua la tête presque comme s'il s'excusait.
« C'est une procédure classique, » dit-il avec douceur. « N'allez pas imaginer que votre père pensait spécifiquement à vous quand nous l'avons rédigé. »
Elle leva le regard de ses doigts entremêlés et planta fermement les yeux dans ceux du vieil homme.
« Et c'est vraiment ce qu'il désirait, à votre avis ? Que Kyle s'empare de Vivacia et que je me retrouve dépendante de ma sœur ?»« Ma foi, je doute qu'il ait envisagé la situation ainsi, » répondit Curtil d'un ton raisonnable et il avala une gorgée de tisane.
Althea se demanda s'il s'agissait d'une tactique pour gagner du temps afin de se laisser l'occasion de réfléchir. Soudain, le vieillard se redressa dans son fauteuil comme s'il venait de prendre une décision.
« Mais je crois que c'était sa volonté. Nul ne l'a dupé ni ne lui a forcé la main. Jamais il ne l'aurait accepté. Votre père désirait que votre sœur soit son unique héritière. Il n'avait pas pour but de vous sanctionner, mais plutôt de protéger les intérêts de sa famille tout entière.
« Eh bien, il a manqué son coup dans les deux cas !» fit Althea d'un ton hargneux. Puis elle baissa son visage dans ses mains, honteuse d'avoir ainsi parlé de son père. Curtil garda le silence. Quand elle releva la tête un moment plus tard, elle dit « Vous devez me considérer comme un charognard. Mon père est mort hier et je viens aujourd'hui disputer une part de ce qu'il possédait. » Curtil lui tendit son mouchoir qu'elle accepta avec reconnaissance.
« Non, » répondit-il, « non, ne croyez pas cela. Quand le point d'appui de son monde disparaît, il est naturel de se raccrocher à ce qui reste, de faire tout son possible pour que la situation demeure aussi proche que possible de ce qu'elle était. »
Il secoua la tête d'un air peiné. « Mais nul ne peut arrêter le temps. »
« J'imagine que non. »
Althea poussa un profond soupir, puis elle réfléchit au petit fétu d'espoir qui lui restait.
« Marchand Curtil, selon la loi de Thierryville, quand quelqu'un prête serment devant ça, ne peut-on l'obliger à tenir sa parole comme dans le cas d'un contrat légal ?»
Curtil fronça ses sourcils broussailleux.
« Ma foi, cela dépend. Si dans un accès de colère, dans une taverne, je jure par ça de tuer un tel, cela n'a rien d'une valeur légale, et par conséquent... »
Althea décida de parler franchement.
« Si Kyle Havre jurait devant témoin que, si j'étais capable d'apporter la preuve que je suis un matelot digne de ce nom, il me rendrait Vivacia. S'il le jurait devant ça, pourrait-on l'obliger à respecter sa parole ?»« Eh bien, techniquement, le navire est la propriété de votre sœur, pas la sienne. »«
Elle lui en a cédé le commandement, » le coupa Althea d'un ton impatient. « Ce genre de serment a-t-il une valeur légale ?»
Curtil haussa les épaules. « Il vous faudrait passer devant le conseil des marchands, mais oui, je pense que vous auriez gain de cause. Ils sont conservateurs et les vieilles coutumes comptent beaucoup à leurs yeux. Un serment prêté devant ça devrait être légalement honoré. Vous en avez des témoins ? Au moins deux ?»
Althea se laissa aller contre le dossier de son fauteuil avec un soupir. « Un, peut-être, qui soutiendrait mes dires. » Les deux autres, je ne sais plus à quoi m'attendre de la part de ma mère et de ma sœur.
Curtil secoua la tête. Les disputes de famille comme celle-ci sont compliquées. Je vous conseille de ne pas continuer, Althea. Vous n'arriverez qu'à créer de nouvelles déchirures, encore pires.
Je ne pense pas que la situation puisse devenir pire, fit-elle d'un ton lugubre avant de prendre congé. Fille de son père, elle s'était rendue aussitôt au bureau de Curtil. Le vieillard n'avait pas eu l'air étonné de la voir. Dès qu'il l'avait conduite dans ses appartements, il avait sorti plusieurs documents enroulés.
L'un après l'autre, il les lui avait montrés en lui faisant comprendre que sa position était intenable. Elle devait reconnaître que sa mère n'avait rien laissé au hasard. Les documents étaient aussi solides que l'arrimage d'une cargaison en prévision d'une tempête. Légalement, Althea n'avait rien. Elle dépendait entièrement de la bonne volonté de sa sœur. Légalement. Elle n'avait pas l'intention que sa vie ait le moindre rapport avec cette légalité. Elle refusait de vivre au crochet de Kefria, surtout si elle devait se plier à la volonté de Kyle. Non. Qu'il continue à croire que son père était mort sans rien lui laisser. C'est là qu'il se tromperait. Elle conservait en elle tout ce qu'il lui avait enseigné, tout son savoir du commerce à la voile et ses observations sur sa façon de négocier. Si elle n'arrivait pas à s'en tirer avec ça, elle méritait de mourir de faim dans un coin. Avec résolution, elle songea que le premier Vestrit arrivé à Terrylville en savait à peine plus qu'elle, et il avait quand même fait son chemin. Elle devait donc être capable d'y parvenir. Non, sacré non, elle ferait mieux. Elle apporterait la preuve qu'elle était ce qu'elle prétendait être, et elle obligerait Kyle à respecter son serment. Yéma la soutiendrait, elle en avait la certitude. Il n'avait pas d'autre moyen d'échapper à l'autorité de son père. Mais sa mère est Kefria. Elle ne l'appuierait certes pas de bonne grâce, mais d'un autre côté, elle ne mentirait pas devant le conseil des marchands. Sa résolution s'affirma. D'une façon ou d'une autre, elle affronterait Kyle et récupérerait ce qui lui revenait de droit. Les quais étaient bondés. Althea se faufila jusqu'à l'endroit où la vivacia était amarrée en évitant des brouettes, des chariots que tiraient des chevaux écumants, des marchands de chandelles qui livraient l'approvisionnement de navires en partance et des négociants qui se hâtaient d'examiner les cargaisons entrantes avant d'en accepter la livraison. Naguère, l'activité de la mi-journée sur les quais l'aurait surexcitée. Mais aujourd'hui, elle lui paraissait pesante. Elle se sentit tout à coup exclue de ses existences, mise à l'écart, invisible. Quand elle arpentait les quais vêtus comme il convenait à la fille d'un marchand de Terrylville, aucun matelot n'osait faire mine de la remarquer, encore moins la saluer joyeusement. Quelle ironie! Ce matin, elle avait choisi la robe noire toute simple et les sandales lacées comme une forme d'excuse envers sa mère pour son comportement malséant de la veille. Mais elle ne s'était pas attendue à ce que ses vêtements constituent sa seule fortune quand elle était partie à l'aventure dans le monde. Comme elle suivait les quais, elle sentit sa confiance en elle l'abandonner. Comment employer le savoir qu'elle possédait pour se nourrir? Comment aborder un capitaine ou un second habillé comme elle l'était et le convaincre qu'elle était un matelot bon pour le service? Les femmes marins n'étaient pas rares à Terrylville, mais elles n'étaient pas non plus fréquentes. On en voyait souvent s'activer sur les ponts des navires des six duchés quand ils venaient à Terrylville. De nombreux immigrants de trois bateaux s'étaient fait pêcheurs, et chez eux, la manœuvre de l'embarcation était l'affaire de toute la famille. En conséquence, même si les femmes marins n'étaient pas inconnues à Terrylville, Althea devrait prouver qu'elle était aussi solide, voire plus, que les hommes aux côtés desquels elle devrait travailler. Mais on ne lui en laisserait même pas l'occasion, vêtue comme elle l'était. Comme la chaleur croissante du jour rendait de plus en plus inconfortable le poids et l'ampleur de ses jupes noires et de sa veste pudique, elle se prit à regretter de ne pas porter un simple pantalon de toile, une chemise et une veste de coton. Enfin, elle parvint auprès de la vivacia. Elle leva les yeux vers la figure de proue. N'importe qui aurait cru que le navire somnolait au soleil, mais Althea n'eut même pas besoin de la toucher pour savoir qu'en réalité, les sens et les pensées de vivacia étaient tournés vers l'intérieur et qu'elle suivait son déchargement. Le travail avançait rapidement. Un flot de débardeurs descendait sa passerelle, chargé de ses différents frettes, tels des fourmis fuyant un nid détruit. Il ne prêtait guère attention à Althea, badaude parmi les autres spectateurs sur le quai. Elle s'aventura près de la vivacia et posa la main sur son végrage tiède de soleil. « Bonjour, » dit-elle à mi-voix. « Althea !» Le navire avait une chaude voix de contralto. La figure de proue ouvrit les yeux et sourit à sa visiteuse. Puis elle tendit une main vers elle, mais, allégée de sa cargaison, elle flottait trop haut pour que leurs doigts se touchent. Althea dut se contenter des sensations qu'elle percevait par le biais du bordage rêche où reposait sa paume. Déjà, son navire avait une plus grande conscience de soi. Il était capable de parler avec Althea tout en restant conscient du déplacement de son fret dans ses cales. En outre, comme Althea s'en rendit compte avec un pincement au cœur, sa vigilance se concentrait davantage sur Yéma. Le garçon se trouvait dans la soute aux chênes, occupé à enrouler et à ranger des cordages. Il faisait une chaleur étouffante dans la petite pièce, et l'odeur lourde du navire lui donnait la nausée. L'angoisse qu'il ressentait s'était répandue dans le navire sous la forme d'une tension dans le vaigrage et d'une raideur dans les espars. À quai, ce n'était pas très grave, mais en pleine mer, un navire devait être capable de jouer avec les pressions de l'eau et du vent. « Il s'en tirera bien !» dit Althea à Vivacia pour la réconforter, malgré la jalousie que lui inspirait l'inquiétude du navire. « C'est une corvée dure et sans intérêt pour un bleu, mais il y survivra. Tâche de ne pas songer au malaise qu'il ressent pour l'instant. »«
C'est pire que ça !» fit le navire à mi-voix. « Il est pratiquement prisonnier à bord. Il n'a pas envie d'être là. Il veut devenir prêtre. Au début, nous commencions à devenir d'excellents amis. » Mais j'ai l'impression aujourd'hui qu'on fait tout pour qu'il me déteste.
« Personne ne peut te détester », lui assura Althea en s'efforçant de prendre un ton confiant. « C'est vrai, il souhaiterait se trouver ailleurs. Il ne servirait à rien que je te mente là-dessus. Ce qui lui déplaît, c'est de ne pas être là où il le voudrait. Mais il ne peut pas te détester, c'est impossible. »
S'armant de courage comme si elle allait plonger la main dans le feu, elle ajouta « Tu peux lui donner ta force, tu sais. Dis-lui que tu l'estimes et que tu te réjouis de le savoir à bord, comme tu l'as fait autrefois pour moi. »
Néanmoins, elle eut beau se maîtriser, sa voix se brisa sur ces derniers mots.
« Mais je suis un navire, pas ton enfant, » dit Vivacia, répondant à la pensée informulée d'Althea plus qu'à ses propos. « Tu n'abandonnes pas un bébé qui n'a aucune connaissance du monde. » Par bien des aspects, je le sais, je suis encore naïve, mais je dispose de toute une masse de souvenirs et de renseignements. Il suffit que je les mette en ordre et que je vois comment ils se relient à ce que je suis maintenant. Je te connais, Althea. Je sais que ce n'est pas de ton propre choix que tu m'as quitté. Mais tu me connais aussi. Et tu dois comprendre à quel point je souffre de savoir Yéma forcée de rester à mon bord, obligée d'être mon compagnon et mon ami de cœur alors qu'il désire se trouver ailleurs. Nous sommes attirés l'un vers l'autre, Yéma et moi. Mais la colère que lui inspire sa situation le pousse à résister à ce lien, et j'ai honte de si souvent tendre mon esprit vers le sien. Le déchirement du navire était terrible à ressentir. Vivacia combattait son propre désir de la compagnie de Yéma et se forçait à un isolement semblable à un brouillard. Althea le percevait presque comme un lieu effrayant, battue par la pluie, froid et d'un gris uniforme. Elle en fut épouvantée. Comme elle cherchait des paroles de réconfort, une voix d'homme retentit, autoritaire, par-dessus les cris et les bruits habituels du quai.
« Hé, vous ! Oui, vous ! Éloignez-vous du bateau ! Ordre du capitaine ! Vous ne devez pas monter à bord !»
Althea leva la tête en se protégeant les yeux de l'éclat du soleil, et elle dévisagea Torg comme si elle ne reconnaissait pas sa voix.
« Le quai est à tout le monde, monsieur, » fit-elle calmement.
« Peut-être, mais pas ce navire. Alors du vent !»
Moins de 2 mois plus tôt, Althea aurait fait un esclandre. Mais le temps qu'elle avait passé avec Vivacia et les événements des 3 derniers jours l'avaient transformée. Elle n'avait pas meilleur caractère, se dit-elle avec détachement, mais sa colère avait acquis une terrible patience. À quoi bon s'en prendre à un lieutenant mesquin et tyrannique ? Ce n'était qu'un petit roquet, alors qu'elle était une tigresse. Inutile de gronder après une créature qui présentait si peu d'intérêt. Il suffisait d'attendre de pouvoir lui briser les reins d'un coup de dent. En maltraitant Yéma, il avait scellé son destin. Sa grossièreté envers Althea serait rachetée par la même occasion. Dans une vague de vertige, Althea se rendit compte à cet instant que, sa main plaquée sur le vaigrage du navire, elle partageait les pensées de Vivacia et réciproquement. Avec retard, elle s'écarta de la coque avec la sensation de retirer sa main d'une mélasse épaisse. «
Non, Vivacia, » dit-elle à mi-voix, «
Je ne veux pas que ma colère devienne la tienne. Laisse-moi me venger seule. Ne te souille pas. Tu es trop grande, trop belle. Ce n'est pas digne de toi.
Ce n'est pas digne de mon pont, alors,
répondit Vivacia d'une voix basse et amère.
Pourquoi dois-je tolérer une vermine comme Kyle alors que tu restes à quai? Ne me dis pas que c'était ainsi que le capitaine Vestrit traitait ceux de sa famille.
Non, en effet, lui assura précipitamment Althea.
Je vous ai dit de dégager,
cria Torg du pont au-dessus d'elle. Althea lui jeta un coup d'œil. Penché par-dessus le bastingage, il agitait le poing dans sa direction.
« Allez-vous-en ou je vais vous faire bouger d'ici !»
« Il ne peut rien en réalité, » assura Althea au navire. Mais à cet instant, un cri étouffé retentit, suivi d'un choc sourd dans la cale de Vivacia. Quelqu'un jura abondamment sur le pont, et Torg se mit à brailler juste après. Une voix jeune s'éleva.
« Ce palan s'est détaché de la poutre, lieutenant, et pourtant je jurerais qu'il était bien accroché quand on s'est mis au travail. »
Torg disparut et Althea entendit sa course sur le pont. Le déchargement de Vivacia cessa peu à peu, alors que la moitié de l'équipage venait regarder, bouche bée, la palette et les caisses fracassées et les noix de comfer éparpillées sur le plancher. « Ça devrait l'occuper un moment, » fit Vivacia d'un ton suave.
« Il faut quand même que je te quitte, » décida précipitamment Althea. Si elle restait, elle devrait demander au bateau s'il avait une part de responsabilité dans l'histoire du palan et des caisses brisées. C'était un secret trop lourd. Elle pouvait plus facilement supporter ses soupçons que vivre en sachant la vérité.
« Fais attention à toi, » dit-elle à Vivacia, « et occupe-toi aussi de Yéma. »«
Althea, tu vas revenir ?»«
Naturellement. » « J'ai seulement quelques petites affaires à régler, mais je serai de retour avant que tu partes.
Je n'imagine pas de naviguer sans toi, »
dit Vivacia d'un ton désolé, et la figure de proue leva les yeux vers l'horizon, comme si elle se trouvait déjà loin de Terrilleville. Un souffle d'air agita les lourdes boucles de sa chevelure. « Moi aussi, j'aurais de la peine à demeurer sur les quais en te regardant t'éloigner. Mais au moins, Yéma sera à ton bord.
Yéma qui ne me supporte pas. »
Le navire paraissait soudain très jeune et très malheureux.
« Vivacia, tu sais que je ne peux pas rester, mais je vais revenir. Sache que je cherche un moyen de nous réunir. Cela va me prendre un peu de temps, mais je te retrouverai. Jusque-là, tiens-toi tranquille. »«
S'il le faut, » soupira Vivacia. « Parfait. À bientôt. » Althea s'en alla d'un pas vif. Elle avait failli s'étrangler en tenant ses propos trompeurs, et elle se demanda si le navire avait été dupe une minute. Elle l'espérait, mais tout ce qu'elle pressentait de la Vivacia lui disait qu'on n'abusait pas le navire si aisément. Il devait savoir à quel point elle était jalouse de la place de Yéma à son bord. Il sentait sûrement la profonde colère qu'éprouvait Althea devant la situation. Et pourtant, Althea espérait qu'il n'en était rien, que Vivacia n'avait rien à voir avec le palan décroché, et elle priait fermement ça, que le navire ne tente pas de redresser lui-même les torts commis. Comme elle s'apprêtait à s'éloigner, elle se prit à penser que Vivacia était à la fois telle qu'elle s'y était attendue et différente. Elle avait rêvé d'un bateau doté de toutes les qualités d'une femme belle et fière. Cependant, elle n'avait pas réfléchi que Vivacia avait hérité non seulement de l'expérience de son père, mais aussi celle de sa grand-mère et de sa trisaïeule, sans parler de ce qu'Althea elle-même y avait ajouté. Et elle craignait à présent que le navire s'avère aussi obstiné que les Vestrit, aussi lent à pardonner, aussi acharné à n'en faire qu'à sa tête.
« Si j'étais à bord, je pourrais la guider comme mon père lorsque je faisais montre d'entêtement.
Yéma n'aura pas la moindre idée de la façon de s'y prendre avec elle. » Une petite idée obscure s'infiltra dans son esprit. Si elle tue Kyle, il l'aura bien cherché. Un frisson de dégoût la parcourut à l'idée qu'elle pût nourrir une telle pensée. Elle se courba vivement pour cogner ses phalanges contre le bois du quai, afin d'empêcher la Vivacia d'accomplir un acte aussi horrible.
Comme elle se redressait, elle se sentit observée. Elle leva les yeux et découvrit devant elle Ambre, qui la dévisageait. La femme aux cheveux blonds portait une longue robe simple, couleur de gland mûr, et elle avait tressé ses cheveux en une natte scintillante. Le tissu de son vêtement formait des plis depuis ses épaules jusqu'à l'ourlet du bas et dissimulait les contours de son corps. À l'instar d'une femme noble, elle portait des gants, mais ils servaient à cacher les cicatrices et les cales des mains d'un artisan. Au milieu de l'agitation du quai, elle se tenait immobile, aussi peu touchée par elle que si elle se trouvait à l'intérieur d'une bulle de verre. L'espace d'une seconde, ses yeux fauves croisèrent ceux d'Althéa et la bouche de la jeune fille s'assécha. Il y avait chez cette femme quelque chose qui n'était pas de ce monde. Tout autour d'elle, des gens allaient et venaient, affairés, mais elle ne bougeait pas, immobile et concentrée. Son cou était orné d'un collier de simples perles de bois qui brillaient de tous les tons de brun existants. Malgré la distance, Althéa les remarqua et se sentit attirée vers elle. Qui les voyait ne pouvait manquer de les désirer. Elle reporta ses yeux sur Ambre et, encore une fois, leurs regards se croisèrent. Ambre ne sourit pas. Elle tourna lentement la tête d'un côté, puis de l'autre, comme si elle invitait Althéa à admirer son profil. Mais la jeune fille ne remarqua que ses boucles d'oreilles dépareillées. Elle en portait plusieurs à chaque lobe, mais celles qui attirèrent l'attention d'Althéa étaient des serpents entrelacés en bois luisant dans l'un et un dragon brillant dans l'autre. Chacun était aussi long qu'un pouce d'homme et si artistement sculpté qu'on s'attendait presque à voir la vie frémir en eux. Althéa s'aperçut qu'elle les fixait du regard depuis un long moment, et, involontairement, elle croisa de nouveau le regard d'Ambre. La femme lui adressa un sourire interrogateur, mais comme Althéa gardait les traits figés, la femme prit un air de dédain, et, sans changer d'expression, elle toucha de ses doigts longs et fins son ventre plat. Comme si cette main gantée s'était posée sur sa taille, Althéa sentit une angoisse glacée l'envahir. Elle jeta encore une fois un coup d'œil au visage d'Ambre, à présent fermé et résolu. Elle regardait Althéa comme un archer sa cible. Parmi l'agitation générale, elles se trouvèrent soudain seules, se fixant des yeux, insensibles à la foule. Avec un effort aussi grand que si elle eût voulu échapper à une main qui l'eût crochée, Althéa se détourna et s'enfuit sur les quais en direction du marché de Terrytville. Elle courut gauchement parmi la presse du marché d'été, heurta des gens, se cogna contre une table couverte d'écharpes, en se retournant pour regarder par-dessus son épaule. Elle ne vit pas trace d'Ambre. Elle continua d'un pas plus ferme le long du trottoir. Son cœur se calma et elle s'aperçut qu'elle transpirait sous le soleil d'été. Sa rencontre avec le navire, puis avec Ambre, l'avait laissé la bouche sèche et presque tremblante. C'était absurde, ridicule. La femme n'avait fait que la regarder. Pourquoi s'était-elle sentie menacée? Jamais elle n'avait été sujette à se sauver ainsi sans raison. C'était sans doute la tension des deux derniers jours. En outre, elle ne se rappelait pas depuis quand elle n'avait pris de repas digne de ce nom. Maintenant qu'elle y pensait, à part de la bière, elle n'avait rien absorbé depuis l'avant-veille. Voilà probablement ce qui n'allait pas. Elle trouva une table à l'arrière d'un petit salon de tisane et y prit place. Elle éprouva un tel soulagement à échapper au soleil qu'elle se sentit comme amolie. Quand le serveur s'approcha, elle commanda du vin, du poisson fumé et du melon. Il s'inclina puis s'en alla, et c'est alors seulement qu'elle se demanda si elle aurait assez d'argent. Elle n'y avait pas pensé en se vêtant avec soin ce matin. Sa chambre à la maison était d'une propreté immaculée, comme toujours quand elle revenait de voyage, et quelques pièces et billets traînaient dans le coin d'un tiroir. Elle s'en était emparée et les avait fourrées dans les poches de sa jupe avant de les refermer, plus par habitude que par précaution. Même si elle possédait assez pour payer ce simple repas, la somme était sûrement insuffisante pour s'offrir une chambre d'hôtel. Si elle ne voulait pas rentrer chez elle l'oreille basse, elle avait intérêt à réfléchir pour assurer son avenir. Elle en débattait encore avec elle-même quand on lui présenta son repas. Avec audace, elle demanda de la cire et y appuya le cachet de son anneau sur la baguette de comte.
C'était sans doute la dernière fois qu'elle pourrait se permettre d'envoyer la facture chez son père. Sachant cela, elle aurait dû se faire offrir un repas plus raffiné par Kefria. Mais le melon était craquant et sucré, le poisson bien fumé et le vin, ma foi, buvable. Elle avait connu pire par le passé et connaîtrait sans doute bien pire plus tard. Il lui suffisait de s'accrocher et la situation s'arrangerait avec le temps. Il le fallait. Alors qu'elle finissait son vin, elle prit soudain conscience que son père était mort et le resterait jusqu'à la fin de ses propres jours. Cette partie de son existence ne s'arrangerait jamais. Elle s'était presque habituée à son chagrin. Et à ce sentiment renouvelé de perte, ses genoux se mirent à trembler. C'était là une façon douloureuse d'envisager son existence à laquelle elle n'avait jamais songé. Si longtemps qu'elle parvienne à s'accrocher, Efren Vestrit ne rentrerait plus jamais pour mettre bon ordre à la situation. Nul n'allait rien arranger sinon elle-même. Elle doutait de la compétence de Kefria pour gérer la fortune familiale. Sa sœur et sa mère auraient pu se débrouiller, mais Kyle allait lui aussi touiller dans la marmite. Si elle restait en dehors de tout cela, quelle gravité pouvait atteindre les événements pour les Vestrit? Ils pouvaient tout perdre. Même Vivacia. Ce n'était encore jamais arrivé à Terrylville, mais la famille Devouché n'en était pas passée loin. Elle était grevée de dettes à tel point que le conseil des marchands avait convenu que ses créanciers principaux, les marchands Connery et Rich, avaient le droit de s'emparer de la vive nef Devouché. Le fils aîné devait rester à bord comme serviteur sous contrat jusqu'à ce que les dettes fussent remboursées. Mais avant que l'accord eût été conclu, ce même fils était rentré à Terrylville avec une cargaison d'une valeur suffisante pour satisfaire les créanciers. Toute la ville s'était réjouie de son triomphe et en avait fait quelque temps une sorte de héros. Mais Althea ne voyait pas Kyle dans ce rôle, non. Il était plus probable qu'il remettrait navire et fils à ses créanciers en disant à Yémin que c'était sa faute. Avec un soupir, elle se força à repenser à ce qui l'inquiétait le plus. Que devenait Vivacia? Le navire venait seulement de s'éveiller. La tradition prétendait que sa personnalité se développerait au cours des semaines à venir, et chacun s'accordait à dire qu'il était impossible de prévoir le tempérament d'une vive nef. Elle pouvait tenir de ses propriétaires, ou bien être extraordinairement différente d'eux. Althea avait perçu chez Vivacia un côté implacable qui lui glaçait les sangs. Dans les semaines suivantes, ce caractère s'affirmerait-il, ou bien le navire manifesterait-il tout à coup le sens de la justice et de la loyauté du père d'Althea? Elle songea au Kendry, navire notoirement entêté. Il ne tolérait pas de fret vivant dans ses cales et détestait la glace. Il faisait volontiers voile vers le sud et Jamelia, mais les marins déclaraient que travailler sur ces ponts vers le nord et les six duchés ou au-delà était comme naviguer sur un navire en plomb. En revanche, avec une cargaison parfumée et une destination méridionale, le navire se pilotait tout seul, rapide comme le vent. Une telle rétivité n'était pas si terrible pour un navire. Sauf s'il devenait enragé. Althea piqua le dernier morceau de poisson dans son assiette. Malgré la chaleur de la journée d'été, elle se sentait glacée. Non, Vivacia ne ressemblerait pas au parangon. C'était impossible. Elle avait été convenablement éveillée au milieu d'une cérémonie de bienvenue, après que trois existences de navigateurs avaient été intégrées en elle, alors que la cupidité des propriétaires avait fait du parangon une vive nef enragée et semé la mort et la destruction dans leur famille. Chacun savait que c'était ce qui avait causé la perte du navire. Une seule existence avait imprégné le parangon, quand Uto Lutchance avait pris son commandement. Tout le monde déclarait que Palwick, le père d'Uto, était un excellent marchand et un grand capitaine. D'Uto, en revanche, tout ce qu'on pouvait dire de plus aimable sur lui était qu'il était matois et retors, et qu'il aimait jouer. Impatient de rembourser la vive nef de son vivant, il avait toujours trop chargé le parangon lors de ses voyages, et rares étaient les marins prêts à embarquer une deuxième fois, car Uto se conduisait comme un véritable tyran, non seulement avec ses subordonnés, mais aussi avec son jeune fils, Ker, le mousse. Selon certaines rumeurs, le navire, pas encore éveillé, était difficile à manœuvrer, bien qu'on mît généralement ce défaut sur le compte de la trop grande quantité de voiles utilisées et le manque d'accastillage dû à Uto et à son âpreté au gain. Et l'inévitable s'était produit. Un jour d'hiver, pendant la saison des tempêtes, le parangon fut déclaré en retard. Sept Lutchances avaient erré sur les quais, en demandant des nouvelles à tous les navires entrants, mais nul n'avait vu le parangon ni ne savait rien sur son époux ni sur son fils. 6 mois plus tard, le parangon rentra au port. On le découvrit flottant à l'entrée du port, la quille en l'air. Tout d'abord, personne ne reconnut l'épave. Son bois indiquait simplement qu'il s'agissait d'une vive nef. Dans des Doris, des volontaires remorquèrent le navire jusqu'à la plage et l'y ancrèrent jusqu'à ce que la marée basse l'échoue et laisse voir le désastre. Quand l'eau se retira, le parangon apparut tout entier. Une tempête d'une rare violence avait arraché ses mâts. Mais la vérité la plus cruelle se trouvait sur son pont. Attachés si solidement qu'aucun grain ni aucune lame n'aurait pu les arracher, on voyait les restes de son dernier fret et, emmêlés dans le filet de la cargaison, les dépouilles d'Uto Lutchance et de son fils Ker, dévorés par les poissons. Le parangon les avait ramenés chez eux. Mais plus horrible que tout, peut-être, le navire s'était éveillé. La mort d'Uto et de Ker à son bord avait achevé le décompte des 3 vies nécessaires. Comme l'eau descendait en découvrant la figure de proue, le féroce guerrier barbu sculpté dans le bois s'était écrié d'une voix d'enfant
« Maman, maman, je suis rentré !»
Avec un grand cri, Sêtre Lutchance avait perdu connaissance. On l'avait ramenée chez elle et par la suite, elle avait toujours refusé de se rendre sur la digue du port où le parangon remis d'aplomb était amarré. Affligé, effrayé, le navire inconsolable avait sangloté et appelé des jours durant. Tout d'abord, les spectateurs avaient fait preuve de compassion et fait des efforts pour le réconforter. On avait attaché le Kendri près de lui pendant près d'une semaine, au cas où le navire, plus âgé, pourrait l'apaiser. Mais au contraire, il était devenu agité et difficile, et on avait dû finalement le déplacer. Et Parangon continua de pleurer. Le spectacle de ce farouche guerrier barbu, aux bras musclés et à la poitrine velue, qui sanglotait comme un enfant apeuré en appelant sa mère, avait un côté terrible. De compatissant, les gens devinrent apeurés, puis furent pris d'une sorte de colère. C'est alors que Parangon gagna un nouveau nom, le paria, le rejeté. Nul équipage ne voulut plus s'amarrer près de lui. Il portait malchance, murmuraient les marins entre eux, et il le laissait livrer à lui-même. La pourriture amollit les amarres qui l'attachaient au quai, et les bernacles les alourdirent. Le Parangon, pour sa part, se tut, en dehors d'imprévisibles crises de jurons et de pleurs violents. À la mort de Sêtre Lutchance, encore jeune, la possession du parangon passa aux créanciers pour lesquels il n'était qu'un boulet, un navire impossible à faire naviguer et qui occupait une cale de chargement onéreuse dans le port. Le temps passant, plusieurs cousins acceptèrent à contre-cœur une propriété partagée du navire s'ils parvenaient à le convaincre de reprendre du service. 2 frères, Cable et Sedge, se présentèrent pour prendre possession du bâtiment, ce qui donna lieu entre eux à une féroce compétition, mais Cable était le plus âgé de quelques minutes. Il obtint gain de cause et promit de récupérer la vive nef familiale. Il passa des mois à parler avec le parangon et finit apparemment par établir une sorte de lien avec lui. Il affirmait que le navire était comme un enfant effrayé avec lequel il fallait user de cajolerie. Ceux qui détenaient une créance sur la vive nef prorogèrent le crédit de Cable en marmonnant qu'ils jetaient leur argent par les fenêtres, mais ils étaient incapables de résister à l'espoir de récupérer leurs pertes. Cable engagea des ouvriers en leur payant des salaires exorbitants pour obtenir des marins qu'ils s'approchent du navire néfaste. Il lui fallut une année presque entière pour regréer le parangon et pour recruter un équipage en mesure de le manœuvrer. On le félicita vivement d'avoir sauvé le navire, car au cours des jours qui précédèrent son départ, le parangon se fit connaître comme un bateau modeste mais poli, parlant peu mais dont le rare sourire faisait fondre les cœurs. Par une belle matinée, ils quittèrent Terrilleville. On n'eut plus jamais de nouvelles de Cable ni de son équipage. Quand on aperçut enfin le parangon, c'était une épave, son gréement fracassé et sa toile en lambeaux. On reçut à Terrilleville des rapports sur la catastrophe bien des mois avant qu'il n'y parvint lui-même. Il flottait bas, ses ponts presque inondés, et nul ne répondait aux appels des autres bateaux de passage. Seule la figure de proue, l'œil noir et le visage de pierre rendaient leur regard à ceux qui se risquaient assez près pour constater d'eux-mêmes que personne ne travaillait sur les ponts. Il revint à Terrilleville, à la digue où il était resté amarré bien des années. Les premières et uniques paroles qu'il prononça, paraît-il, furent « Dites à ma mère que je suis rentré à la maison !» Vérité ou légende, Altea ne pouvait que le deviner. Quand Sedge eut le courage d'amarrer le navire et de monter à bord, il ne trouva pas trace de son frère ni d'aucun matelot, vivant ou mort. La dernière inscription du journal de bord parlait de beau temps et de la perspective d'un bon profit sur leur fret. Rien n'indiquait pourquoi l'équipage aurait abandonné le navire, dans laquelle se trouvait une cargaison de soieries détrempées et d'eau-de-vie. Les créanciers s'approprièrent ce qui était à sauver et laissèrent le navire maudit à Sedge. Toute la ville le prit pour un fou quand il récupéra le parangon et engagea sa maison et ses terres pour le remettre en état. Sedge avait ensuite effectué 17 voyages sans ennui avec le parangon. À ceux qui lui demandaient comment il y était parvenu, il expliquait qu'il ne prêtait nulle attention à la figure de proue et pilotait le navire comme s'il était en bois ordinaire. Pendant toutes ces années, la figure de proue resta en effet muette, quoiqu'elle jetât des coups d'œil sinistres à ceux qui la regardaient. Ses bras musclés restaient croisés sur sa poitrine puissante, ses mâchoires aussi serrées que lorsqu'elles étaient en bois. Quels que fussent les secrets que connut le navire sur le sort de Cable et de ses hommes, il les gardait pour lui. Par son père, Altea avait appris que le navire avait presque été accepté dans le port, que selon certains, Sedge avait délié la malchance qui entourait le parangon. Sedge lui-même se vantait de sa maîtrise du bateau et emmena sans crainte son fils aîné en voyage. Il racheta les hypothèques sur sa maison et ses terres et fit une existence confortable à sa femme et à ses enfants. Certains des anciens créanciers commencèrent à murmurer qu'ils avaient agi trop précipitamment en lui rendant le navire. Mais le parangon ne revint jamais du 18e voyage de Sedge. Cela avait été une année de tempête et, d'après certains, le destin de Sedge n'avait pas été différent de celui qu'avaient subi bien des marins à ce moment-là. Un gréement lourdement chargé de glace peut aisément faire chavirer un navire, vivant ou non. La veuve de Sedge arpentait les quais et regardait l'horizon, l'œil vide. Mais 20 ans plus tard, elle s'était remariée et avait eu d'autres enfants avant que le parangon fît son retour. Une fois de plus, il apparut la coque en l'air et pénétra lentement dans le port en défiant vent, marée et courant. Lors, quand la quille argentée fut aperçue, on sut presque aussitôt de quel navire il s'agissait. Nul volontaire n'accepta de le remorquer, nul ne voulut le retourner pour découvrir ce qu'il était advenu de l'équipage. Même parler de lui passait pour porter malheur. Mais quand son mât se prit dans la vase épaisse du port et que sa coque devint un danger pour les bateaux de passage, l'officier de port mit ses hommes à l'œuvre. Avec force jurons et sueur, ils dégagèrent la vive nef. Et à la marée la plus haute du mois, ils la treuillèrent sur la grève aussi loin que possible. Les marées descendantes la laissèrent complètement à sec, et tous purent voir alors que les hommes du parangon n'avaient pas seuls connu un sort terrible. La figure de proue elle-même avait été sauvagement mutilée à coups de hache entre le front et le nez. Du regard sombre et renfermé du navire, rien ne demeurait que des débris de bois. Une curieuse étoile à 7 pointes, aussi livide qu'une cicatrice de brûlure, marquait sa poitrine. Le plus terrible était qu'il jurait plus violemment que jamais, et que ses mains tâtonnantes se tendaient comme pour déchiqueter quiconque passerait à sa portée. Ceux qui eurent le courage de monter à bord décrivirent un navire dépouillé jusqu'à l'os, Il n'y avait nulle trace des hommes du bateau, pas une chaussure, pas un couteau, rien. Même les journaux de bord avaient disparu. Et, privée de tous ses souvenirs, la vive nef marmonnait, éclatait de rire et jurait toute seule, avec des discours dont tout sens s'était échappé comme le sable d'un sablier brisé. Le parangon était demeuré ainsi toute la vie d'Althéa. Il arrivait que le paria ou le bon à rien, comme on l'appelait parfois, soit presque soulevé par une marée exceptionnellement haute. Mais l'officier de port avait ordonné qu'on l'ancre fermement aux falaises de la Grève. Il ne tenait pas à ce que la coque se libère et s'en aille en mer où elle représenterait un risque pour les autres bateaux. Officiellement, le paria appartenait désormais à Amis Lutchans. Mais Althéa doutait qu'elle eût jamais été voir l'épave échouée de la vive nef. Telle une parente démente, on la gardait cachée et on ne l'évoquait qu'à voix basse, si toutefois on l'évoquait. Althéa imagina un tel sort advenant à Vivacia et frissonna d'horreur.
« Encore du vin ?» demanda le serveur d'un ton appuyé.
Althéa refusa promptement en se rendant compte qu'elle s'était beaucoup trop attardée à la table. Ce n'était pas en restant assise à ruminer les tragédies des autres qu'elle allait améliorer sa propre condition. Elle devait agir. Ce qu'elle pouvait faire, tout d'abord, était avertir sa mère du trouble apparent de la vive nef et la convaincre, par quelque miracle, de la laisser voyager à bord. Ensuite, elle décida de se trancher la gorge avant d'agir comme une enfant pleurnicharde.
Elle quitta le salon de tisane et se promena par les rues animées du marché. Plus elle cherchait à se concentrer sur ses problèmes, plus elle avait de difficultés à déterminer lequel affronter en premier. Elle avait besoin d'un gîte, d'un couvert et d'une perspective d'emploi. Son navire bien-aimé se trouvait entre des mains insensibles et elle n'y pouvait rien. Elle essaya de songer à des alliés qui pourraient l'aider et n'en vit aucun. Elle se maudit alors de n'avoir jamais cultivé la compagnie des fils et filles d'autres marchands. Elle n'avait pas de galant vers qui se tourner, pas de meilleur ami qui l'abriterait quelques jours. À bord de la Vivacia, elle avait son père comme fréquentation pour parler sérieusement et les marins comme amis avec qui plaisanter. À Terrilleville, elle passait ses journées à la maison à jouir du luxe d'un vrai lit et de repas chauds composés d'aliments frais, ou bien elle accompagnait son père lors de sorties d'affaires. Elle connaissait Curtil, son conseiller juridique, plusieurs agents de change et un certain nombre de marchands qui leur avaient acheté des cargaisons au cours des années. Apparemment, elle ne pouvait se tourner vers aucun d'entre eux dans ses difficultés présentes. Elle ne pouvait pas non plus rentrer chez elle sans donner l'impression de s'aplatir. Et nul ne pouvait prévoir la réaction de Kyle s'il la voyait sur le seuil, même si elle ne venait que reprendre ses affaires. Il serait capable d'essayer de l'enfermer à clé dans sa chambre, comme une enfant mal élevée. Pourtant, elle se sentait une responsabilité envers la Vivacia, même si le navire avait été déclaré ne plus lui appartenir. Elle finit par apaiser sa conscience en hélant un coursier. Pour un sou, elle obtint une feuille de mauvais papier, un crayon au fusain et la promesse d'une remise du message avant le coucher du soleil. Elle rédigea un mot hâtif à sa mère, mais ne trouva guère à lui apprendre, sinon qu'elle se faisait du souci pour le navire, que Vivacia paraissait malheureuse et inquiète. Elle ne demanda rien pour elle, seulement que sa mère aille voir personnellement la Vivacia afin de l'encourager à s'exprimer franchement et à révéler l'origine de sa détresse. Sachant que cela aurait l'air dramatique à l'excès, elle n'en rappela pas moins à sa mère le triste sort du parangon, en ajoutant souhaiter que le navire familial ne le partageât pas. Ensuite, elle relut sa missive, les sourcils froncés à cause de son côté trop poignant. Elle songea néanmoins qu'elle ne pouvait faire mieux, et que sa mère était du genre à descendre au moins sur les quais pour se rendre compte elle-même des affirmations de sa fille. Althéa scella le message avec une goutte de cire dans laquelle elle imprima son cachet de travers, puis elle envoya le garçon le porter à destination. Cela fait, elle releva la tête et promena son regard sur les alentours. Elle se trouvait maintenant dans la rue du désert des pluies, dont le quartier avait toujours été le préféré de son père et le sien. Une fois leurs affaires conclues, ils avaient presque toujours inventé un prétexte pour parcourir l'avenue bras dessus bras dessous,
en prenant plaisir à attirer chacun l'attention de l'autre sur tel ou tel produit exotique et récent. La dernière fois qu'ils s'y étaient promenés, ils avaient passé presque toute une après-midi dans un magasin de cristallerie dont le tenancier proposait une nouvelle harpe éolienne. Le moindre souffle de vent la déclenchait et elle jouait non pas des notes au hasard, mais une mélodie insaisissable et infinie, trop délicate pour qu'une langue humaine la fredonne et qui subsistait étrangement dans l'esprit par la suite. Éphron avait acheté à sa fille un petit sachet de violettes et de pétales de rose enrobés de sucre, ainsi qu'une paire de boucles d'oreilles en forme de poisson pèlerin. Elle l'avait aidé à choisir parmi des pierres précieuses parfumées pour l'anniversaire de sa mère, puis l'avait accompagné chez l'orfèvre pour les faire monter en bague. On affirmait que la magie coulait dans les eaux du fleuve du désert des pluies. Et de fait, les objets que les familles du désert faisaient parvenir en ville en étaient merveilleusement empreints. Quelles que fussent les sombres rumeurs concernant les hommes qui avaient choisi de rester dans la première colonie bâtie sur le fleuve, leurs produits tenaient toujours du prodige. De la famille Verga provenaient des biens qui fleuraient bon l'Antiquité. Tapisseries fines qui représentaient des êtres pas tout à fait humains aux yeux lavande ou topaze, bijoux travaillés dans un métal à l'origine inconnue et aux formes extraordinaires, charmants vases en poterie à la fois aromatiques et gracieux. Les Sophrones commercialisaient des perles aux profondes teintes orange, améthyste et bleue, des récipients de verre glacé qui ne se réchauffaient jamais et qu'on employait pour refroidir le vin, les fruits ou la crème. D'autres familles vendaient des quasis, fruits dont la peau rendait une huile capable d'apaiser les souffrances les plus graves et dont la pulpe donnait une drogue dont l'effet durait plusieurs jours. C'étaient les boutiques de jouets qui attiraient toujours le plus Althea. Là, on pouvait trouver des poupées dont les yeux humides et la peau douce et tiède imitaient ceux d'un véritable nourrisson. Des jouets mécaniques si efficacement fabriqués qu'ils fonctionnaient pendant des heures. Des oreillers bourrés d'herbes qui assuraient des rêves surnaturels. Et des pierres lisses et merveilleusement sculptées qui luisaient d'une lumière intérieure pour éloigner les cauchemars. Ces objets étaient onéreux même à Terrilville et atteignaient des prix exorbitants une fois embarqués pour d'autres ports. Ce n'était pourtant pas à cause de leur prix qu'Ephron refusait d'acheter ses jouets, même pour Malta, sa petite fille, qu'il gâtait scandaleusement. Quand Althea avait insisté, il s'était contenté de secouer la tête. « On ne touche pas à la magie sans en être souillé », avait-il affirmé d'un ton grave. « Nos ancêtres ont jugé le prix trop élevé et ils ont quitté le désert des pluies pour fonder Terrilville. Nous-mêmes ne faisons pas le commerce des produits du désert. » Quand elle l'avait pressé davantage, il avait à nouveau secoué la tête et répondu qu'ils en discuteraient quand elle serait plus grande. En attendant, ses craintes ne l'avaient pas empêché d'acheter les pierres parfumées qui faisaient tellement envie à son épouse. Quand elle serait plus grande. Eh bien, si grande qu'elle devienne, c'était là une discussion qu'il n'aurait jamais. L'amertume de cette idée fit éclater ses pensées plaisantes et la ramena dans l'après-midi finissant. Elle quitta la rue du désert des pluies, mais non sans un regard d'appréhension au magasin d'ambre, à l'angle. Elle s'attendait presque à voir la femme dans la vitrine en train de la dévisager. Cependant, le présentoir ne montrait que ses articles drapés artistiquement sur un plaid de tissu d'or étendu sur le canapé. La porte de la boutique était ouverte, tentante, et des gens entraient et sortaient. Son affaire prospérait donc. Althea se demanda avec quelle famille du fleuve du désert des pluies elle s'était alliée et comment elle s'y était prise. À la différence de la plupart des autres magasins, son enseigne n'arborait nul signe d'une famille de marchands. Dans une ruelle tranquille, Althea décrocha ses poches de ses jupes et contempla leur contenu. C'était bien ce à quoi elle s'attendait. Elle pouvait s'offrir une chambre et un repas le soir même, ou manger frugalement quelques jours avec ce qu'elle possédait. Elle songea de nouveau à revenir simplement à la maison, mais ne put s'y résoudre. Du moins, tant que Kyle s'y trouverait. Plus tard, quand il aurait repris la mer, si elle n'avait pas trouvé de travail ni de gîte, elle serait peut-être obligée de retourner chez elle pour récupérer au moins ses vêtements et ses bijoux personnels. Cela, elle pouvait sûrement le demander sans atteinte à son orgueil. Mais tant que Kyle serait là, jamais. Elle laissa tomber ses pièces et ses billets dans sa bourse qu'elle resserra fermement, en regrettant l'argent qu'elle avait dépensé à boire de façon si insouciante la veille. Comme elle n'y pouvait rien, mieux valait prendre soin de ce qui restait. Elle suspendit à nouveau les poches à l'intérieur de ses jupes. Elle quitta la ruelle et se mit à marcher d'un air décidé. Il lui fallait trouver quelque part où dormir cette nuit, et une seule idée lui venait. Elle s'efforça de ne pas penser aux nombreuses fois où son père l'avait sévèrement mise en garde contre le fait de le fréquenter, jusqu'au jour où il lui avait carrément interdit d'aller le voir. Elle ne lui avait plus parlé depuis des mois, mais quand elle était enfant, avant de commencer à naviguer avec son père, elle avait passé bien des après-midi d'été en sa compagnie. Les autres enfants de la ville le trouvaient effrayant et répugnant, mais la crainte avait vite quitté Althea. Elle s'était sentie triste pour lui à la vérité. Il était effrayant, c'était exact, mais le plus effrayant chez lui était ce que d'autres lui avaient infligé. Une fois qu'elle eut compris cela, une amitié hésitante s'en était suivie. Comme le soleil de l'après-midi s'éteignait en une longue soirée d'été, Althea sortit de Terrilleville et se mit à suivre la grève criblée de cailloux où le parangon échoué reposait sur le sable.